Session sur le jugement de sagesse par le père Philippe à Saint-Jeudard, l'après-midi du 24 janvier 1988.
Nous arrivons donc à quelques problèmes extrêmement importants au plan du gouvernement divin. Vous savez que saint Thomas distingue avec beaucoup de netteté le problème de la providence et du gouvernement divin. C'est une distinction qui est d'ordre philosophique, hein, qui n'est pas du tout d'ordre théologique. Théologie du moins de la foi. Au point de vue de la foi, regardez dans l'Écriture, on voit bien que Dieu, de fait, s'occupe de chacun d'entre nous. Pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que le Père Céleste ne le permette. Donc là, c'est net. C'est de voir que c'est Dieu qui est présent auprès de nous et qui nous porte. Les expressions qu'on trouve dans les psaumes, dans l'Écriture, sont extrêmement fortes pour nous montrer combien Dieu est vigilant. Il nous garde comme la pupille de son œil. Il faudrait relever une fois, quand vous lisez l'Écriture, toutes les expressions symboliques qui montrent la présence de Dieu et qui montrent le regard de Dieu. Ce serait très beau, ça. C'est facile à faire et c'est pour essayer d'avoir une théologie, alors surnaturelle, de la présence de Dieu. Ici, nous nous plaçons d'un point de vue philosophique. Donc dans une lumière inférieure, et ne disons pas, comme on a trop facilement la tentation de dire, si vous avez une lumière beaucoup plus forte, vous n'avez plus besoin de la petite lumière inférieure. C'est la tentation, vous savez. On a une lumière très grande, la lumière de la foi, qui va beaucoup plus loin que la lumière d'intelligence. Alors pourquoi faire encore de la philosophie? Si vous avez un phare puissant, pourquoi prendre encore une petite bougie? Vous comprenez tout de suite, hein? J'espère, la réponse, elle est sur le bout de vos lèvres. Vous voyez tout de suite, c'est que ce phare très puissant, c'est dans l'obscurité. J'adhère au mystère qui m'est révélé. J'adhère à la proximité de Dieu sur moi. J'adhère à la providence et au gouvernement de Dieu sur moi, qui est une providence et un gouvernement paternel, extraordinairement proche, mais que je ne vois pas. Et j'ai même constamment les tentations inverses. Lisez le livre de Job. Le livre de Job est un livre qui nous montre ça d'une façon étonnante. Quand on dit que Dieu s'occupe de nous, comment se fait-il que des gens qui mènent une vie impossible de parpaillot ont l'air d'être bien plus heureux que ceux qui essaient, autant qu'ils le peuvent, d'entrer au noviciat et de faire le mieux possible? C'est pas parce qu'on entre au noviciat que du jour au lendemain, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de souffrance, on n'aura que des frères qui sont des saints autour de nous et qui nous regardent toujours avec un très grand amour. Vous savez, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de vivre à côté des saints. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vrai, parce qu'on vit avec côté des saints qui ont leur caractère particulier. Et comme la grâce vient tout transformer, mettre tout à un point extrême, c'est toujours très difficile de vivre à côté des saints. Je ne parle pas des saintes, mais des saints, c'est très difficile. Très difficile de vivre à côté des saints, parce que c'est pas commode. Et la vicia, c'est une pépinière de saints. Vous voyez ça? Faudra les transplanter en plus dans un autre terrain. Mais c'est une pépinière de saints. Des petits saints qui poussent. Les uns à côté des autres. Alors comprenons que la foi ne nous donne pas la clarté. Ne nous donne pas l'évidence. La foi nous donne une certitude absolue, mais dans l'obscurité. Et la foi ne supprime pas la nature, Et donc la foi réclame que notre intelligence fasse des efforts le plus qu'elle peut pour découvrir autant qu'elle le peut ce que l'intelligence humaine peut dire. C'est pour ça que le croyant, s'il était vraiment un croyant, et s'il le peut, s'il a suffisamment de temps, il doit se mettre à faire de la philosophie. C'est sûr. Une philosophie saine, pas une idéologie, mais une philosophie saine qui conduit à découvrir toutes les dimensions de l'homme. C'est ce que j'ai essayé de vous rappeler hier. Une vraie philosophie nous amène à regarder cette chose extraordinaire de toutes les dimensions de l'homme. Et chaque fois que je découvre quelque chose de Dieu, c'est ce que nous faisons maintenant, chaque fois que nous découvrons quelque chose de Dieu comme une manière d'être de Dieu, je découvre aussi la manière d'être de l'homme, créé à l'image de Dieu. Et le philosophe, lui, ne peut pas affirmer que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il ne peut pas l'affirmer, il peut dire que cette affirmation de l'Écriture est merveilleuse et qu'elle traduit peut-être de la façon la plus adéquate ce que lui peut constater. Aristote disait déjà, sans avoir la révélation, Aristote disait déjà que le philosophe qui cherche à contempler, qui recherche donc la vérité, et qui cherche à contempler le plus qu'il peut l'être premier, développe en lui ce qu'il y a de plus semblable à Dieu. Et donc, nécessairement, Dieu aime l'homme qui recherche la vérité. L'homme qui recherche la vérité est aimé de Dieu d'un amour particulier. Parce qu'il essaie par là de développer en lui ce par quoi il est le plus semblable à Dieu. C'est très beau, comme perspective purement philosophique. Nous ne pouvons aller plus loin, encore une fois, par la foi, mais la foi ne supprime pas l'effort de l'intelligence. Ça, c'est très important de se le rappeler. Vous voyez ce que nous faisons maintenant. Alors, nous essayons de comprendre, maintenant, dans le gouvernement de Dieu, puisque Dieu n'abandonne pas son œuvre, il ne peut pas l'abandonner, puisque ce qu'il fait, il le fait avec sagesse et avec bonté. Donc, il ne peut pas l'annihiler, et non seulement il ne peut pas l'annihiler, mais il la gouverne. Et alors, on distingue providence, qui est la connaissance que Dieu a de tout le développement de notre univers et de l'homme. La providence, c'est la transposition en Dieu de la prudence. La prudence humaine consiste à connaître toutes les qualités que nous avons et aussi les limites et les défauts. Et nous essayons de mettre toutes ces qualités au service de la fin humaine que nous poursuivons, c'est-à-dire l'amitié et la contemplation. Et aussi la réalisation de certaines œuvres, qui n'est pas une fin absolue, mais qui peut être, pour beaucoup, un tremplin. Il ne faut pas la négliger. Et nous mettons tout en œuvre pour atteindre notre fin. Et l'homme prudent sait les moyens qu'il peut utiliser. Et il sait de ne pas aller trop loin. Mais ce qu'on disait tout à l'heure dans la lecture du réfectoire, un bon montagnard marche lentement au point de départ. Il ne se met pas à courir comme un enfant, parce qu'au bout d'un certain temps, il sera essoufflé, il ne pourra plus continuer. Et alors, c'est la même chose. On sait ce qu'on peut donner. Vous voyez, l'homme prudent, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout celui qui ralentit la marche. C'est celui, au contraire, qui a une grande ardeur pour atteindre sa fin. Et il met tout en cause pour l'atteindre. S'il peut aller vite, il va vite. S'il est obligé de tenir compte de certaines difficultés, il tient compte de certaines difficultés. Oui, l'homme prudent tiendra compte de ça. S'il a une vieille machine, une vieille auto, qui risque à chaque instant de craquer, l'homme prudent consiste à dire « faisons attention pour être sûr d'arriver au terme ». l'imprudent ne reçoit aucune espèce d'importance, il fonce, sans tenir compte de la qualité de l'outil qu'il a. Eh bien, c'est la même chose par rapport aux forces humaines. On sait que si on ne dort pas beaucoup, par exemple, on est de très mauvaise humeur le lendemain, ou on ne comprend rien du tout au cours. Alors on fait attention. On fait attention quand même de dormir le temps qui nous permet d'être de bonne humeur et de faire son devoir d'état, c'est-à-dire d'écouter les cours, même le dimanche. C'est pas, puisque c'est contemplatif d'écouter les cours le dimanche. C'est pas un travail laborieux, c'est contemplatif, ça nous dirige vers Dieu sur tous ces cours-là. Regardez la providence de Dieu, c'est essayer de contempler un peu Dieu. La prudence donc, consiste à mettre en ordre tous les moyens que nous avons pour les ordonner vers la fin. Et Dieu possède, parce qu'il nous a créés, et qu'il nous a créés comme un père, il a sur nous un regard providentiel, prudentiel, vous voyez, providentiel, prudentiel. C'est-à-dire qu'il nous connaît parfaitement, et il sait parfaitement comment nous pouvons atteindre notre fin. Quels sont les moyens que nous pouvons employer pour atteindre notre fin ? Et le gouvernement de Dieu, c'est l'application de sa providence à la réalisation actuelle. Les deux se tiennent, voyez. La providence, c'est la sagesse de Dieu par rapport à nous. Et le gouvernement de Dieu, c'est la politique de Dieu, politique de sagesse par rapport à nous, dans l'exécution même de nos activités. Donc on distingue les deux. Or ici, nous regardons beaucoup plus le gouvernement de Dieu. Nous regardons comment Dieu, de fait, nous gouverne. Alors, il y a deux grands problèmes. Il y en a plus, mais j'en souligne deux. Il y a deux grands problèmes ici. Premier problème, le problème de la procréation. Nous l'avions vu l'année dernière, assez longuement. Et juste avant les instructions du cardinal Ratzinger. Et si vous vous rappelez bien, ceux qui assistaient, nous avions abouti au plan philosophique, sans qu'il y ait un téléphone entre le cardinal Ratzinger et ici, aux exactement les mêmes conclusions. Ça m'a beaucoup intéressé, puisque c'est un problème que je crois très important aujourd'hui, et de pouvoir dire que ce problème, au plan philosophique, on aboutit aux mêmes conclusions, c'est intéressant. Parce que ça fait comprendre très bien que le cardinal Ratzinger n'est pas en retard, comme on le dit de temps en temps. On dit, oh ça, c'est du cardinal Ratzinger. Il est sous l'influence d'un Polonais, alors c'est pas étonnant. C'est l'Allemagne qui est sous l'influence d'un Polonais. Un Bavarois qui est sous l'influence d'un Polonais, donc c'est pas étonnant. Comme il est très pieux, donc c'est pas étonnant qu'il se soumet entièrement à ce que veut le Saint-Père. Je crois pas du tout, je crois que le Saint-Père respecte énormément le cardinal Ratzinger, qu'il a très grande confiance en lui. Et qu'en effet, ils travaillent ensemble, c'est sûr. Et que Ratzinger ne dirait jamais quelque chose qui serait contraire au Saint-Père, ça sûrement. Mais c'est sa conviction profonde. Le cardinal Ratzinger a suffisamment de personnalité et suffisamment de philosophie et de théologie pour savoir ce qu'il doit dire au plan philosophique et au plan théologique. Alors, tout le problème est là, vous comprenez ? C'est de comprendre que dans la procréation, l'homme coopère avec le Créateur. Et c'est ça qu'on oublie. Et c'est ça que la plupart des médecins aujourd'hui oublient. Il traite de la procréation comme d'une autre activité humaine. Or, je ne peux pas, en tant qu'homme et en tant que chrétien, regarder la procréation de la même façon qu'un autre problème humain. Parce que de fait, au plan chrétien, il y a deux alliances fondamentales avec Dieu. La procréation et l'alliance de l'intelligence capable de découvrir l'existence de Dieu. Et qui doit faire tout ce qu'elle peut pour découvrir l'existence de Dieu, l'existence de l'être premier par elle-même. Oui, c'est curieux, hein ? C'est l'aspect de la théologie naturelle et la procréation, qui sont les deux alliances fondamentales. Ça, au point de vue de la foi, je peux le dire. Au point de vue philosophique, je dois dire que déjà Aristote le disait, que l'âme humaine ne peut pas provenir des parents. Et donc que l'âme humaine ne peut être que créée par Dieu. Aristote disait, elle vient d'un autre, de l'extérieur. Et quand il disait qu'elle vient de l'extérieur, on sait très bien qu'il voulait dire qu'elle ne vient pas des parents et qu'elle ne pouvait pas venir des substances secondes, des substances séparées, comme il parlait, c'est-à-dire ce que nous appellerions des anges. Pourquoi ? Parce que la création de l'esprit, dans ce qu'il a de substantiel, de premier, ne peut provenir que de Dieu. Dieu seul peut créer un esprit. C'est-à-dire une réalité substantielle qui soit au-delà de notre monde matériel. Et qui soit capable de connaître intellectuellement et d'aimer spirituellement. Dieu seul peut faire cela. Parce que, précisément, l'esprit, comme tel, a une autonomie radicale dans l'ordre de l'être. C'est une réalité qui subsiste en elle-même. Et donc elle ne peut pas provenir d'un autre esprit. Elle ne peut provenir que de Dieu. Elle ne peut pas provenir d'un autre esprit. Elle ne peut pas provenir d'une réalité inférieure, c'est-à-dire la vie biologique. Et elle ne peut pas provenir d'un autre esprit, même si cet esprit est supérieur. Parce que cet esprit, lui-même, implique qu'il a reçu l'exister. Dans toute créature, il y a une distinction fondamentale entre l'essence et l'existence. Vous vous souvenez, c'est la première distinction, le premier jugement de sagesse. En toute créature, donc aussi bien dans l'ange que dans l'homme, que dans l'esprit créé, il y a une distinction entre l'essence et l'existence. Entre la nature et l'existence, ce qui montre que l'existence est reçue. Et si l'existence est reçue, on ne peut pas communiquer l'être à un autre. Et si on poussait bien, on verrait bien que l'exister n'est pas notre avoir. L'exister est reçu. La créature est dans un état de mendicité à l'égard de l'essai. Elle le reçoit. Elle ne le possède pas. Elle le reçoit. Et donc, elle ne peut pas le communiquer par elle-même. Elle ne peut pas communiquer à un autre. Il faudrait qu'elle agisse sur rien. Or, toute mon action et l'action des anges, c'est la même chose. Parce qu'ils sont des créatures. Ne peuvent agir que sur une matière antérieure. Toutes vos activités, les plus géniales qu'elles soient, réclament une matière. Une matière qui peut apparaître très subtile, comme pour les mathématiques. C'est une matière quand même sur laquelle j'agis. Ou le langage, la parole, comme pour le poète. On agit toujours sur quelque chose qui est antérieur. parce que notre activité est accidentelle. Elle n'est pas substantielle, elle n'est pas notre être. Elle est quelque chose qui provient de nous, mais elle n'est pas notre être. Nos activités sont multiples. C'est le signe que c'est quelque chose d'accidentel. Il n'y a pas une activité. Nos activités étant accidentelles ne peuvent pas communiquer l'être. Notre être étant reçu. Seul Dieu peut communiquer l'être. C'est pour ça que seul Dieu peut créer, au sens tout à fait radical de ce que c'est que la création. Un être nouveau qui apparaît. Or, l'esprit, ne dépendant pas de la matière, étant lui-même substantiel, ne peut être source d'un autre esprit, puisque son activité est accidentelle, puisque son activité va toujours s'appuyer sur quelqu'un d'autre, antérieur à lui. Il ne peut donc pas réaliser une créature nouvelle indépendamment de toute autre chose, à partir de rien. Seul Dieu peut créer un esprit. Et c'est pour ça que notre âme spirituelle demande d'être créée immédiatement par Dieu. Théologiquement, le grand argument de l'Immaculée Conception, ou si vous voulez, théologiquement, le dogme de l'Immaculée Conception, est le grand argument par lequel nous pouvons montrer que toute âme humaine est créée dès le premier instant de la conception. Je sais que certains refusent cet argument. On m'a dit l'autre jour qu'il y avait un article, je ne l'ai pas vu, mais je le lirai. Un article d'un théologien qui dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur le mystère de l'Immaculée Conception pour dire que l'âme est créée dès le point de départ. Puisque l'Église, en définissant le mystère de l'Immaculée Conception, ne parle pas du tout de la conception dans le sens où nous l'entendons en disant le premier moment de la conception. Et donc c'est un sens large, la conception. L'enfant est conçu. Tant qu'il est porté par sa mère, il est conçu. Il n'est pas encore né. Vous voyez ? Je ne crois pas que c'est très juste. Puisque le péché originel n'attend pas très longtemps à contaminer. Et je crois que dès la conception, le péché originel est communiqué. Les tares du péché originel sont communiquées, sûrement. Ça, on s'en aperçoit, on peut s'en apercevoir. Dès le premier moment de la conception. Alors il faudrait accepter, vous voyez, qu'il y ait des tares et que subitement tout soit supprimé par l'âme qui a été créée. On ne voit pas très bien comment. Il faudrait un nouveau miracle. Alors que je crois qu'il faut prendre conception au sens fort. Dès le premier instant de la conception, Marie est immaculée. Et comme seule l'âme peut être immaculée, il faut donc que l'âme de Marie soit là. Et à partir de là, je peux dire, puisque Marie est notre sœur dans l'humanité, nous pouvons tous dire que le mystère d'Immaculée Conception nous éclaire pour comprendre que dès le premier instant de la conception, l'âme est créée par Dieu. Du reste, cet auteur disait que l'Immaculée Conception ne pouvait pas servir d'argument, et cependant il concluait qu'il pensait bien que l'âme était créée dès le premier instant de la conception. Donc il le disait gratuitement, alors qu'il me semble que le mystère d'Immaculée Conception nous est donné pour que nous ayons un argument merveilleux, qui nous est donné pour nous, durant ce XXe siècle, où c'est justement à ce moment-là où on n'a plus besoin que jamais. Vous voyez, Dieu prévoit tout le temps. Ça, c'est Dieu qui prévoit. Il nous donne d'avance la lumière qu'on a besoin. Donc, je crois que philosophiquement, on doit dire que l'âme est nécessairement créée par l'être premier, l'acte pur, que les traditions religieuses appellent Dieu. Nous ne pouvons pas préciser d'une façon rigoureuse à quel moment, cependant, tout porte à croire que c'est dès le premier moment de la conception. Même la question des jumeaux, ça ne change rien du tout. Parce que s'il y a division, il faut donc qu'il y a quelque chose qui cause cette division. Ça prouve qu'il y a deux âmes. Tout simplement. Vous voyez, l'âme assume le corps et c'est pas le corps qui assume l'âme. Puisque la division de la première cellule se fait pas immédiatement. Dès la conception, elle se fait un tout petit peu après. Alors c'est un des arguments qu'on vous met entre les pattes en disant « Mais voyez bien, vous ne pouvez pas dire que l'âme est créée tout de suite. Parce qu'il y a, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas deux âmes? Vous ne le voyez pas. » Puis c'est tout. L'âme est toujours cachée à travers le corps. Vous n'avez jamais vu l'âme, moi non plus. Je ne l'avais jamais vue au bout du scalpel. Jamais. Donc c'est la manifestation de l'âme qu'on voit. Et la manifestation de l'âme, on dit qu'il y a deux âmes dès qu'il y a deux cellules qui se divisent. Mais c'est un problème qui est important du reste, qui est très important à bien réfléchir. Mais il faut toujours comprendre que le corps est relatif à l'âme et pas l'âme relative à au corps. Hein. Donc c'est toujours dans le sens inverse qu'il faut raisonner. Mais évidemment, il faut comprendre que l'âme existe. S'il n'y a pas d'âme, je raisonne indépendamment de l'âme. Comme un biologiste, il raisonne indépendant de mon âme. Il dit à tel moment, il y a une séparation, il y a deux cellules. Mais qu'est-ce qui cause les deux cellules? Comment se fait-il que ça n'ait pas toujours lieu? Vous voyez, il y a là quelque chose qui reste mystérieux. Donc il y a nécessairement une cause. Et cette cause n'est pas la matière, c'est pas la cellule elle-même, c'est autre chose. Ça vient de l'extérieur. Ou ça vient de l'intérieur par l'âme. Donc il faut essayer de saisir comment il y a une coopération de Dieu avec les parents dans la procréation. Ce qui fait que la procréation est quelque chose de sacré. C'est Dieu qui respecte l'initiative des parents. Ce n'est pas Dieu qui a donné un commandement. Dieu n'a pas donné un planning familial dans sa providence. Il laisse ses parents libres. Il est beaucoup plus généreux que la société, c'est très curieux ça. Il est beaucoup plus magnanime. Dieu fait confiance à ceux qu'il a créés à son image, alors que la société ne fait pas confiance du tout. C'est vrai ça. On impose. Oui, certains États imposent. Hein. Vous n'aurez qu'un seul enfant, et puis c'est tout. Parce que le bien commun le demande. Et vous comprenez très bien qu'en faisant ça, l'État usurpe et manque à la liberté de la personne humaine. Et manque à la liberté de l'amitié des conjoints. Dieu ne donne pas un planning familial. Dieu laisse la liberté aux personnes. Et Dieu laisse l'initiative aux parents. C'est extraordinaire, ça. Dieu s'efface pour laisser les parents passer devant. Et que ce soit eux qui décident. S'ils sont chrétiens, ils décideront en priant. S'ils ne le sont pas, ils décideront selon leur bon plaisir. Et Dieu répond. Ça va très loin, ça. La magnanimité de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez, la magnanimité de Dieu comme créateur avec tout ce que représente la conception in vitro. Dieu répond. Même si, de fait, l'homme pêche. voyez, quand il peut y avoir un viol et conception et un enfant. C'est extraordinaire, ça. C'est une des choses les plus bouleversantes de la magnanimité de Dieu. Et ça, nous le voyons dès le début. Si théologiquement parlant, le péché de Lucifer a eu lieu avant la création de notre univers, et selon les pères de l'Église, Lucifer a péché parce que Dieu lui a communiqué qu'un jour, il réaliserait un monde physique et que son chef-d'œuvre serait l'homme et la femme et non pas l'ange, le démon n'a pas accepté. Non serviam. Le cri de rage de Lucifer, qui est devenu un dragon, d'ange qu'il était, à cause du péché, qui est devenu un serpent, d'ange qu'il était. Le symbolisme du serpent, le symbolisme du dragon nous fait comprendre ce que c'est que Lucifer. Cet ange déchu. Si le péché de l'ange a eu lieu avant la création de notre univers, si Dieu n'était pas aussi magnanime, aussi grand dans sa sagesse, Dieu aurait dit, c'est pas la peine de continuer de créer, étant donné que mes enfants, mes créatures répondent si mal. C'est ce que nous faisons, nous. On arrête. Hein. Si c'est comme ça, c'est pas la peine de continuer. Tu aurais pu très bien dire ça au moment de la révolte de Lucifer. Si c'est comme ça, c'est pas la peine de continuer. Et malgré le péché de l'ange, Dieu a continué de créer. Et c'est dit dans le prologue de Saint Jean, hein, la lumière a été communiquée au milieu des ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'étreindre. Ce qui montre bien que la création de notre univers s'est faite dans la lutte. Je crois que c'est très important de comprendre ça, pour comprendre que Dieu, malgré la faute, continue d'être magnanime. Il dépasse toutes les oppositions pour communiquer davantage son amour. J'allais dire qu'il se sert même des oppositions pour aller plus loin dans la communication de sa bonté, dans la communication de son amour. Donc, il y a le grand mystère de la procréation. Je n'insiste pas plus. L'année dernière, on avait vu ça beaucoup plus longuement. Après la création de l'âme, Dieu reste créateur actuel de l'âme et il est celui qui veut gouverner l'âme. Il gouverne l'âme avec le concours de la mère. Pendant les 9 mois de gestation, c'est Dieu et la mère. Le père n'a pas grand-chose à faire. C'est sûr, il a être gardien de son épouse qui porte le petit. Mais c'est la relation, c'est du reste très beau, de la mère avec Dieu. Puisque l'âme du petit enfant est créée dans l'embryon. Et c'est la mère qui le porte et le nourrit. Et donc il y a une relation très particulière de Dieu avec la mère. Ça aussi, ce serait très beau à développer. Oui, ce caractère maternel du gouvernement de Dieu. Cette alliance de Dieu avec l'époux et l'épouse pour la procréation. Mais cette alliance spéciale de Dieu avec la mère pour la conservation de l'embryon, c'est remis à la mère, c'est la responsabilité de la mère. Là, elle a une responsabilité très unique. Elle est gardienne de l'enfant, elle est gardienne du petit, avec Dieu. Avec Dieu. J'ai enfanté un fils de par Yahvé, hein. la parole de notre première mère, d'Ève. C'est une parole qui est tellement forte. J'ai enfanté un fils de par Yahvé. Et la mère est gardienne du tout petit de par Yahvé. Avec le concours de Dieu. Ça, je crois que c'est très important. On ne le met jamais en lumière. Du moins, moi, je n'ai jamais entendu. Et cependant, philosophiquement, on doit le faire. Surtout aujourd'hui. On doit montrer ce qu'il y a de grand dans la maternité. Ce qu'il y a d'unique. C'est un rôle unique. On ne remplacera jamais une mère. On essaie, la science essaie. Oh, si elle pouvait arriver. Comme elle serait contente de détruire un secret de Dieu. Cette alliance mystérieuse de Dieu avec la mère. Oui, c'est pour ça que Tertullien dit « Dieu est comme une mère ». Cette parole que le Père Doué aimait tellement. Dieu est comme une mère. Et c'est là où on le voit. Parce qu'il est gardien du tout petit à la suite de la mère. Ceci jusqu'à la naissance. À la naissance, la mère joue un rôle unique. Le père aussi, mais d'une manière indirecte. C'est la mère. Il faut respecter les voies de Dieu. Même si la science prétend qu'on pourrait faire autrement. Vous savez bien. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait bien qu'un homme puisse porter un enfant. C'est vrai, ils essaient de le faire. Ils voudraient le faire. Alors les femmes veulent être comme les hommes et les hommes veulent être comme les femmes. Ça, c'est la tour de Babel. C'est très nettement la tour de Babel. C'est l'incompréhension complète des œuvres de Dieu et des voies de Dieu. Parce qu'on veut tout faire. C'est l'homme qui veut tout imposer. Et l'homme n'accepte pas humblement quelque chose qui lui est donné. Et l'humilité d'Adam, os de mes os, chair de ma chair, quand il reçoit Ève, ça c'est très grand. Et c'est ce que nous devrions tous comprendre, que c'est on reçoit quelque chose de Dieu. Alors il faut bien comprendre, parce que ça fait partie des attaques souterraines du démon. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est pas intelligent, donc c'est démoniaque. Parce que l'homme est quand même laissé à lui-même. Et l'homme, poussé par le démon, peut faire des bêtises énormes. Il peut devenir bête, c'est le cas de le dire. La bête de la terre, c'est la bête. Et la bête de la mer. C'est l'homme qui connaît ses perversions de l'intelligence et les perversions du cœur. Et de la toute-puissance, et de son dominium. Alors ça devient comme une bête. Nous avons ensuite cette première éducation, où il y a un concours de Dieu avec la mère, pour la première éducation, très particulier. Il y a un concours de Dieu avec le père. Et ce concours de Dieu avec la mère et le père n'est pas le même. Le rôle de la mère dans la première éducation n'est pas le même que le rôle du père. Normalement, je dis ça, parce qu'aujourd'hui, quelquefois, on voit que c'est inversé. Une mère très intelligente va pouvoir gagner la croûte et le père moins intelligent va pouvoir donner le biberon. Et rester au foyer. Ça se voit, c'est pour ça que je le dis. Faites remarquer qu'il faut. On se tait, quand on voit ça. C'est pas on se tait. C'est une question d'intelligence. L'un trouve un métier, l'autre ne le trouve pas. L'un serait au chômage, l'autre elle passe devant, c'est normal. Le père est bien là, obligé de faire. Je sais pas pour l'enfant ce que ça fait exactement. On verra ça psychologiquement. Parce que c'est pas commode pour un père de connaître la tendresse d'une mère. Pas commode. Vous savez, la fable de La Fontaine, elle existe. Hein? Quand l'âne veut faire des grâces, Alors quelquefois, quand le père veut remplacer la tendresse de la mère, je ne sais pas si pour l'enfant c'est tout à fait la même chose. C'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Il faut le reconnaître philosophiquement qu'il y a quelque chose qu'on doit respecter, qu'on doit aimer pour comprendre tout ce que ça représente comme grandeur. Disons pas que c'est simplement des coutumes, parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais non, ça s'est fait comme ça parce qu'il y avait un fondement naturel. Sûrement. Il y avait quelque chose de naturel. Dans certains cas, c'est possible. Il peut très bien y avoir des foyers dans lesquels le père est beaucoup plus tendre pour ses enfants que la mère. Ça peut arriver. On voit quelquefois quand les femmes sont pas tendres, vous savez, alors ça vient des gendarmes. Quelquefois, alors elles prennent ce métier de gendarme, c'est très bien. Des femmes gendarmes, tombez pas dessus. Hein. C'est bien plus farouche que tous les gendarmes du monde. Ouais, immédiatement, là, vous êtes trompé. Hein. Le feu était rouge et vous êtes passé. Vous pouvez rien dire. Vous êtes obligé d'accepter. Ça, c'est les inversions. Hein. Et le démon joue ses inversions. Alors, il faut comprendre que l'enfant naît, le petit de la femme, le petit de l'homme, naît dans une fragilité invraisemblable. Ça avait frappé les anciens, ça avait frappé Platon, qui pourtant n'était pas tellement porté vers les enfants. La fragilité du tout petit. Et je vous ai déjà dit, les découvertes qu'on a faites récemment, on en a fait en Suisse à Bâle, élever en même temps des petits singes et des petits enfants. Vous voyez, une communauté mixte. Je dis pas que je téléphonais tous les jours pour savoir les résultats, mais je savais très bien où ça se faisait. Alors c'est très curieux, vous savez, les résultats sont simples. Les 6 ou 7 premiers mois, les petits des singes remportaient tous les prix. Toujours premiers. Et les petits enfants, toujours derniers. Ils vont faire des complexes de singes. Je crois, des complexes terribles, hein, d'avoir été battu pendant 6 mois par des... Vous voyez ça? C'est quand même une terrible comme école maternelle. Et alors après 7 mois, c'est l'inverse. C'est très joli ça. Justement, c'est ennuyeux de faire subir ça à des petits enfants, ça. Je crois qu'on n'a pas le droit. Vous savez bien, aussi, ces choses qu'on découvre, qu'un tout petit enfant volé par des loups, et retrouvé plusieurs années après, vit comme un des loups. Je trouve que ce sont des exemples extraordinairement intéressants, ça. Parce que ça montre que Dieu, dans son gouvernement divin, a voulu que la mère ait un rôle capital sur le tout petit. De sorte que les psychologues disent actuellement, vous savez bien que l'éducation, et ça il faut le rappeler, dans des foyers qui n'ont pas d'enfants et qui adoptent, il faut leur rappeler cette chose-là, que l'atavie c'est 40% et l'éducation 60%. Je trouve ça très étonnant, je trouve ça très beau. Parce que ça c'est encore une affirmation de l'âme spirituelle. Les psychologues ne font pas ça pour le prouver, hein. Mais c'est un témoignage. L'éducation regarde en premier lieu l'âme, alors que la procréation et la gestation, c'est la formation du corps. L'âme est enfouie comme dans les catacombes. Tandis que là, c'est l'éducation, c'est tout de suite. Eh bien, l'éducation joue 60% dans la formation et 40% dans l'atavisme. Autrement dit, on est plus fils de ses parents par l'éducation qu'on a reçue d'eux que par le point de vue de la chair et du sang. Ça, c'est merveilleux. On est plus fils de... Voilà, pour, voyez, même pour Saint Joseph, c'est magnifique, ça. Et on devrait le dire tout de suite grâce à Saint Joseph. On aurait pu, si on avait une intuition suffisamment divine, Dieu ne mettrait pas Saint Joseph dans cette situation-là, si de fait, il ne lui demandait quelque chose de très grand. Être père de l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus n'avait pas besoin d'être éduqué, mais il a voulu l'être. Il a voulu que Joseph joue ce rôle auprès de lui. Il était fils de Joseph, à cause de l'éducation qu'il a reçue de Joseph, à cause du métier qu'il a reçu de Joseph. Alors, il faut bien comprendre que Dieu, dans sa providence, dans son gouvernement, a voulu que le tout petit enfant soit dans une fragilité telle qu'il dépende de ses parents d'une manière si forte. D'où l'importance de la famille, d'où l'importance de l'éducation de la mère, l'importance de l'éducation du père. Dieu, là encore, voyez, s'efface pour laisser aux parents d'être qu'aux secondes dans l'éducation. Dans la gestation, dans la conception, ils sont dépendants de la nature humaine. Et c'est vrai, ça. Ils sont comme des instruments de l'espèce. Tandis que dans l'éducation, ils sont qu'aux secondes. Ils choisissent eux-mêmes l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants. S'ils sont de vrais parents, ils sont conscients de cela. Ils choisissent. Tandis que on ne peut pas dire qu'ils choisissent exactement les yeux de leur enfant, le nez, si c'est une fille ou un fils ou un garçon. Non, il y a tout un atavisme. Et quand l'enfant naît, vous savez bien, la surprise toujours, au bout de quelques jours, de reconnaître la ressemblance du grand-oncle, dont on ne parle jamais parce que c'est un brigand. Tout le temps, dans toutes les familles, il y a comme ça des brigands cachés. Un atavisme, on reconnaît, on le dit tout bas, on le dit vers personne d'autre. Tiens, il a les yeux, oh là là, qu'est-ce que ça nous promet. Venez, au fond, on ne choisit pas dans l'atavisme, on ne choisit pas du tout. Tandis que dans l'éducation, on choisit. Et comme c'est une influence plus grande, voyez, comme Dieu laisse aux parents une influence très extraordinaire par rapport à l'éducation de l'âme, le premier réveil de l'âme. Alors cette éducation, on va s'arrêter là, parce que cette éducation va arriver à faire que le petit devienne une personne. Et alors c'est là où on va essayer de comprendre tous les problèmes très délicats de la personne par rapport au gouvernement de Dieu. Alors on s'arrête très peu de temps, puisque, hélas, on est limité par le temps.